Jouons collectif. Troisième émission dans la thématique Jouons collectif, en collaboration avec le journal de la Friche, dans le cadre du mois de l'économie solidaire. On va s'efforcer de réinterroger ce terme de collectif, longtemps associé à une vision collectiviste, aujourd'hui, paraît-il, frappé d'obsolescence. Et on va particulièrement s'intéresser à savoir comment des productions artistiques intègrent cette notion de collectif pour éventuellement lui insuffler un nouveau sens et un esprit nouveau. Pour en parler, Jérôme Matteo, directeur de la structure de production coopérative, ainsi que Bernard Mesraki et Madeleine Chiche du groupe Dune. Frédéric Kahn m'accompagne pour ce mini plateau. Une première question, peut-être pour vous Madeleine. Depuis la fin des années 70, la notion de collectivisme, de collectivisation a peu à peu disparu. Est-ce un signe des temps devenu fortement individualiste ou bien d'une évolution qui veut aujourd'hui que ce terme de collectif soit aujourd'hui compris dans une acception beaucoup plus souple, beaucoup plus transactionnelle?
Non, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on associe les années 70 ou 68 ou un peu avant à la notion de collectivisme, où il me semble que c'était pas tout à fait ces questions-là qui étaient évoquées. Je pense que quand même dans les années 70, il y a eu quand même beaucoup aussi la question de, il y a eu la question, je pense, plutôt des communautés, ou en tout cas, si on parle du domaine artistique. Hein, après, le collectivisme, je pense que ça résonnait plutôt ailleurs, et je pense que mai 68 a été plutôt, a essayé de faire sauter plutôt ces idéologies-là.
C'était pourtant la grande époque des communautés.
Oui, mais je crois que c'est pas tout à fait la même chose, le collectivisme et la communauté. C'est vrai que y a certains types, enfin, ce sont des modes de vie, des modes de. Des comportements, certains types de comportements, mais je crois que c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, j'associe ça au domaine artistique. Hein. Après, je parle pas de ce qui a pu se fonder, mais enfin, moi, je le sens plus dans l'esprit de gestion collective, mais pas de collectivisme, enfin, pas d'autorité qui impose des manières de vivre ou des manières de faire. Bon, et depuis, il me semble qu'effectivement, certes, les choses ont changé, mais en même temps, je crois que... Parce qu'à l'époque, en 68, il y a eu toutes sortes d'expériences très, très, très diverses. Je crois que la notion de liberté, c'était en même temps très important en 68. Donc voilà, ça donnait aussi aux gens la possibilité de tenter des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu veux, évidemment, on est tout à fait dans un autre contexte politique. Et en même temps, je crois qu'il y a toujours des aventures collectives qui se tentent, qui se fabriquent, qui s'expérimentent.
Oui, non, juste, je pense que la notion de collectivisme renvoie à l'expérience communiste.
Frédéric Kahn.
Donc, c'était, je pense, la question était là. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, il y a vraiment la fin... qui est déjà avait commencé, mais vraiment la fin du mythe, enfin d'un certain mythe communiste. Je pense que la question, elle était dans ce sens-là, et qu'à partir de là, essaye de s'inventer d'autres formes de rapport à la collectivité.
On parle pas,
Bernard.
On ne parle pas en tant qu'historien, on parle juste en tant qu'habitant de cette époque-là. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, l'économie n'était pas tellement... parler d'économie n'était pas tellement à la mode, ou même d'économie alternative. Je crois qu'on voulait trouver... je m'implique beaucoup là-dedans, alors que je l'ai vécu... j'étais relativement jeune. Je l'ai vécu plus tard, moi, un petit peu dans les années 70, les prolongements de 68. Mais je pense que si on regarde ce qui s'est passé, en fait... c'était une réaction à une trop grande absence de liberté, en fait. Et c'est ça qui a fait sauter le bouchon. Pour moi, les communautés, c'était beaucoup moins l'expérience d'une économie alternative que la recherche effrénée d'espaces de liberté, et alors peut-être d'un autre mode de vivre ensemble qui impliquait forcément une autre économie. Mais l'économie n'était pas tellement à la mode parce que, je dirais que la décroissance a commencé. L'idée de décroissance, c'est quelque chose peut-être ça existait avant déjà, mais qui était très présent en 68 et qui a produit quand même beaucoup de gens qui n'étaient qui étaient tout le contraire de consommateurs hystériques.
Mathéo.
J'ai à peu près rien à dire sur le collectivisme. J'aurais que des sortes d'images un peu de préjugés par rapport à cette chose-là. Donc quand je pense collectivisme, quand vous évoquez les années 70, moi ça me fait plutôt penser à des scènes ou à des courants. Donc c'est comme ça que c'est plutôt avec cet angle-là qui m'intéresse. Et après, si je peux basculer directement à collectif, je trouve que le terme est en train de doucement, pas systématiquement, mais de se vider progressivement de son sens. On a vu notamment dans l'émergence des musiques électroniques, techno, tout ça, tout le monde était constitué en collectif. Et puis à un moment, ça devenait plus qu'un terme. Et que ce qui devient intéressant aujourd'hui, c'est de voir les singularités de chacun de ces collectifs et quel type de lien ils entretiennent à l'intérieur de ces collectifs. Et effectivement, il y a le terme un peu souplesse, ouais. Les questions de l'autonomie, des autonomies qui travaillent les unes avec les autres et qui ont des liens existants mais assez relâchés pour produire des choses ensemble, mais pas qu'ensemble, avec d'autres. Donc aussi l'idée de réseau. Donc quasiment de s'amuser à refaire, à essayer de renommer qu'est-ce que ça veut dire collectif aujourd'hui. Ouais.
La question de l'identité apparaît aujourd'hui comme le nœud de la relation de l'individu à la société. Alors peut-être sur cette problématique identitaire, sur le fait qu'aujourd'hui l'identité ou l'identitaire soit systématiquement mis sur la table du débat quand on évoque cette relation de l'individu au collectif. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard?
Non, mon premier réflexe, c'est de penser que le terme d'identité est relié à l'idée de communauté, de toutes les origines qui constituent la population aujourd'hui. Moi, quand j'entends identité, j'entends vraiment singularité de chaque individu, quelle que soit son origine. Donc j'ai du mal à accrocher vraiment à la question de ce point de vue-là. Il faudrait l'aborder plutôt du point de vue sociologique que du point de vue où moi je me placerais, c'est-à-dire vraiment l'individu et ses problèmes d'identité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments qui participent de la construction de sa personne.
Madeleine.
Identité, identitaire, c'est pas tout à fait pareil. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment important d'être bien avec son identité. C'est-à-dire, et ça renvoie à ce que dit Bernard, c'est-à-dire que l'identité, c'est quelque chose qui se construit en permanence, en fonction de ses expériences, en fonction de ses rencontres. Et plus, je pense, on se sent bien avec ça, mieux on est capable d'être avec les autres. Après, la notion d'identitaire, je trouve que c'est encore autre chose. C'est pareil, c'est un peu comme collectivisme. J'ai l'impression que c'est plus du côté un peu péjoratif. Voilà, moi j'ai l'impression que par rapport à ça, j'ai pas tant changé. Enfin, je veux dire que je crois que j'ai assez défendu le principe de la singularité, de l'autonomie, donc d'une identité pas forcément revendicative, hein, qui se revendique pas sans arrêt, mais voilà, être quelqu'un, je crois que c'est important. Et que pour moi, c'est un peu une des conditions d'arriver à être à peu près bien avec les autres, quoi.
Mathéo.
Je rejoins Bernard sur le... Alors, plutôt que de parler d'une identité, de dire une identité multiple, ou que chaque corps, que ce soit une personne ou un groupe ou une collectivité, est constitué de multiples identités, ce qui nous invite de simplifier, déjà, tout de suite. Pas forcément de complexifier, mais en tout cas d'être simplificateur. Après, je trouve que c'est toutes ces nuances à l'intérieur entre un corps qui est constitué de différentes identités, avec tous les rapports de pouvoir que ces identités multiples entretiennent les unes avec les autres, avec ce qui est apparent, mais qui n'est peut-être pas le principal, enfin des choses sans entrer dans des analyses psychanalytiques. Mais plutôt là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant sur l'identité multiple et tout ce que ça génère aussi, ça peut générer comme malentendu ou comme accès à l'autre. Je rejoins aussi Madeleine là-dessus, sur un corps, peut-être avec 5% de ce qu'il constitue, va réussir à rentrer en contact avec un autre corps. Et peut-être c'est les 80, il y a peut-être s'ils étaient rentrés en contact sur 95% de leur dominante, ça marcherait pas. Donc des fois ça tient à des micro choses, à des failles ou à des replis, pour ne paraphraser personne. Et je trouve que c'est plutôt cette richesse, pour ne pas dire complexité, qui est intéressante dans la question de l'identité. Donc plutôt identité au pluriel ou dire identité multiple.
Mais la question aujourd'hui de l'identité renvoie à l'individualisme. C'est ça. Enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les identités, telles qu'on le conçoit majoritairement dans la société, renvoient à des postures d'individualisme. Vous, en tant qu'artiste, forcément, l'identité, c'est la singularité, mais au sein d'une société, alors que l'individualisme renvoie plutôt à la notion de communauté, communautarisme. Enfin, me semble-t-il.
Une réaction? L'individualisme fabrique des communautés?
Pour moi, l'individualisme et l'identité, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, c'est-à-dire qu'on. L'individualisme, c'est peut-être plus un repli sur soi ou un évitement de la question de la collectivité ou de sa place dans la collectivité. Alors que l'identité, pour moi, c'est quand même une façon de prendre position, sans que ce soit une fois pour toutes. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille sans arrêt, qui est sans arrêt en mouvement. Et c'est pas antinomique avec la question du collectif. C'est-à-dire que on peut parfaitement défendre sa singularité ou son identité et être impliqué dans des aventures collectives. Voilà.
Je trouve que l'autonomie, la singularité, évidemment, c'est... Alors non pas, il ne faut pas chercher à être singulier, mais il faut juste, si on cherche à être soi-même, on va forcément vers sa propre singularité. Je veux dire, on a toutes les chances d'arriver à quelque chose qui nous distingue un petit peu des choses, sans vouloir être différent, sans vouloir être hors des autres. Je pense que le travail de l'artiste, peut-être, mais je crois que c'est le problème est le même pour chaque individu qui cherche à se construire, c'est qu'au plus il se construit, au plus il prend en compte les éléments qui constituent son identité, au plus il va être forcément différent de l'autre et donc singulier. Et voilà. Bon, et à côté de ça, à partir de cette singularité, il va trouver une force d'autonomie qui va lui permettre d'exister dans le collectif.
Mathéo.
Moi, j'entendais la définition de Fred sur l'individualisme. Ça me fait penser à interaction et coproduction. C'est-à-dire que l'idée que je me fais de l'individualisme, c'est pour des questions de repli, notamment pour des questions de repli, c'est à un moment le refus de coproduire ou le refus d'interagir ou que des choses interagissent sur nous, sachant que c'est impossible. Donc on peut essayer de maîtriser ça jusqu'à un certain point, mais il y a une réalité où des événements, des gens, des productions interagissent, toujours des systèmes d'interaction et de coproduction, qu'on le veuille ou non. Donc l'individualisme, c'est pour ça que je rejoins ta définition, c'est une espèce de... Bon, allez, vous mettrez la barricade et je contrôle tout, y compris si je souhaite coproduire, mais je ne fais rien rentrer, alors qu'il y a toujours des choses qui rentrent. Donc c'est assez intenable. Cette position-là, elle est quand même assez intenable. On peut parfois la souhaiter, il y a des moments où on peut la souhaiter, mais je la trouve dans la réalité assez intenable.
C'est pour ça que je renvoyais à la notion de communauté, c'est que dans ce cas-là, on cherche à retrouver le même. On cherche dans l'autre le même, ce qui est aussi complètement une aberration. Hein. Mais je pense qu'il y a comme ça tout un processus qui fait que les communautés Internet, c'est quand même assez flagrant. On cherche celui qui va être le même au lieu de chercher celui qui est l'autre. Alors que de toute façon, on ne le trouvera pas le même.
Hein. En gardant une distance. Enfin, il y a cette recherche-là. Mais après, il y a ce confort extrême sur toutes les MySpace, par exemple. En dehors du fait que MySpace appartient à Rupert Murdoch et à qui appartient cette machine-là. Mais après, c'est une sorte de... On communique unilatéralement, on est assez protégé par ce qui arrive, Donc cette communauté-là, elle est, c'est la communauté où, où chacun est hyper protégé par rapport aux autres. Donc,
Mais c'est pas la vraie vie.
Non.
Voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est pas la vraie vie. La vraie vie, elle est pas là.
Dans ces lieux virtuels, ça n'est pas je qui est un autre, c'est l'autre qui est un jeu, peut-être. I got my feet knocked off the ground. I got my head knocked off my feet. I tried. Est-ce que la démarche de création artistique, qui est la vôtre, de création et de production, affecte votre, votre perception de cette relation entre l'individu et la société? Est-ce qu'il y a une particularité de la réflexion d'un, d'un artiste sur cette, ce rapport entre l'individu et le collectif?
Pardon,
Bernard?
Pardon de parler encore, mais moi j'ai tendance à ne pas faire la différence, parce que je pense que effectivement notre individu est totalement fondu dans notre dans le citoyen que nous sommes et dans l'activité de création, on va dire, qu'on développe. Mais je pense que c'est encore une fois c'est les éléments qui constituent notre singularité, c'est cet ensemble qui crée notre vision des choses, mais comme pour n'importe quelle personne, le boulanger, il a son expérience de boulanger, et à travers l'expérience des relations humaines qu'a le boulanger, bah, il construit sa vision des choses. Donc je ne pense pas que ce soit une spécificité des artistes de lier les choses comme ça dans la vision.
Mais peut-être une capacité d'imaginer ou de fonder de nouveaux rapports à la société ou à l'économie. Mathéo ?
Par exemple, depuis 5-6 ans, c'est assez étonnant aux musiques dites actuelles. Et ça vient peut-être aussi de leur hybridation là, entre un système industriel et puis quelque chose qui serait plus de l'ordre des politiques publiques, etc. etc. T'as quand même des systèmes qui se sont tellement fermés, y compris chez les indépendants, avec j'ai besoin d'un manager, j'ai besoin d'un tourneur, j'ai besoin de faire du disque, j'ai besoin de faire de la scène, j'ai besoin d'être distribué, j'ai besoin de faire la promotion par internet, etc., etc., que d'un coup, la question du musicien dans son rapport au monde, tu la lis moins, il y a moins de lecture. Alors il y a toujours des exceptions, il y a toujours évidemment des, et heureusement des singularités, mais au niveau des scènes, depuis 5-6 ans, tu lis moins cette imprégnation qui pouvait y avoir sur la scène musicale de Détroit entre 1967 et 1972 par exemple. Mm-hmm. On l'écoute et puis on regarde ce qui se passe à Détroit à ce moment-là et on comprend qu'on comprend qu'il y a un lien. Mm-hmm. On comprend que c'est le chaos, que c'est la crise et que ça nourrit la création. C'est pas le seul élément qui a nourri la création, mais que ça la nourrit. Ou que cette scène-là, elle était complètement ouverte et qu'elle faisait du rock'n'roll parce qu'elle avait écouté du free jazz ou de la musique orientale ou du blues du Delta. Ouais. Et que finalement, l'espèce de tuyau qui s'est resserré, sans doute dû aussi à des systèmes industriels, et que la question du citoyen, je ne l'entends pas tant que ça dans ce milieu-là aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle n'est pas, quand tu prends le temps d'en discuter, avec ce milieu-là, et je ne me désinclus pas de ce milieu-là. Tu arrives à aborder ces questions-là, mais globalement, il y a une sorte de tête dans le guidon, une forme d'individualisme, au sens péjoratif du terme, ce besoin d'une reconnaissance économique ou d'une reconnaissance médiatique, qui fait que mon rapport à la ville, mon rapport aux autres, mon rapport aux transformations urbaines, sociales, etc., etc., tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser aux transformations urbaines. D'un coup, c'est fait un peu, ça a été un peu tordu, et ça a un peu disparu.
Est-ce que, selon vous, l'acte artistique se situe dans une économie spécifique, particulière, ou bien est-ce qu'elle se situe dans le champ de l'économie générale, sans vouloir forcément ressortir la tarte à la crème de l'exception culturelle ?
Je trouve que, pour la plupart, nos économies, c'est pas nos économies, mais comment dire, notre mode de gestion, parce que je trouve que c'est des grands mots pour des choses qui sont très simples. On est plus près de la gestion de la ménagère que de l'économie au sens où... avec un grand E, oui, que de l'ADS, quoi. Et de ce point de vue-là, en fonction de la taille des structures, on est plus près de l'artisan, voilà. On est tout le temps, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on est obligé de s'adapter aux situations constamment.
Madeleine ?
Là, j'ai l'impression que c'est pas... si tu veux, je pense qu'il y a des tas de modes différents. Alors, je pense qu'on est intégré forcément à l'économie générale. Et qu'en même temps, je crois qu'il y a là aussi sans doute des expériences très, parfois assez différentes de modèles économiques. Je crois qu'on n'est pas en dehors du système. Je crois qu'on ne crée pas, on n'invente pas de modèles particuliers. Par contre, je crois qu'on a quand même obligation d'être toujours très en prise avec ces questions-là, donc de les moduler en permanence en fonction de ce qui nous importe, c'est-à-dire réaliser ce qu'on a envie de réaliser.
Mathéo,
il y a en effet cette histoire d'adaptation permanente. Il y a aussi l'histoire de veille. De veille permanente. Après, l'économie, mais peut-être moins au niveau des artistes eux-mêmes, quoique, mais dans les équipes artistiques, il faudrait qu'on comptabilise sur une journée le temps qu'on passe à parler d'argent et le temps qu'on passe à parler de création et l'espèce de dosage entre les deux. Et alors le fait qu'il y a eu depuis 15 ans des formations de managers culturels, c'est à la fois très bien et en même temps ça a créé des super techniciens. Donc on se retrouve des fois dans des moments où c'est le super technicien qui prend le pas sur le créateur, qui prend même le pouvoir sur les créateurs. Quand on regarde à l'intérieur des équipes, là, quand on voit certains grands musées parisiens ou grands centres d'art parisiens et qu'on regarde l'organigramme, et que sur une équipe de 20, ils sont 4 ou 5 à ne travailler que sur des financements privés. Alors, ils sont en mesure d'investir dès le départ, ils ont cette capacité d'investir dès le départ en se disant « on aura des retombées économiques pour développer nos projets à 3 ans, à 4 ans ou 5 ans ». Mais sans schématiser, mais sur les équipes artistiques à la Friche, mais pas que, quand on regarde les organigrammes, celui qui est censé n'aller chercher que de l'argent privé ou des nouvelles niches de financement, on n'est pas complètement encore dans cette culture. Donc après, j'ai pas d'avis tranché par rapport à ça, parce que entre que des super techniciens qui vont chercher de l'argent et les créateurs et les médiateurs, il y a un dosage. Mais je trouve que dans notre secteur, il y a des choses à interroger de ce côté-là.
Vas-y. Non, c'est-à-dire que si tu veux, bon, je sais pas, nous on est né dans les années 80 et on a traversé quand même différentes périodes en termes de financement. De financement pour l'art, quoi. Donc c'est-à-dire que quand on a commencé, c'est vrai qu'il y avait il y avait quasiment rien, ni au niveau de l'État, ni au niveau des collectivités territoriales.
Donc, ni au niveau du privé.
Ni au niveau du privé. Alors, au niveau du privé, on n'en parlait même pas. Nos modes ont évolué en fonction du contexte autour de nous. Nos modes de financement et nos manières à nous de réfléchir notre économie. Parce que je pense que ça a toujours été une donnée pour nous. Donc on a toujours, je pense, tenté de, Bernard dit s'adapter, mais aussi de le réfléchir, c'est-à-dire de prévoir ou de précéder ou de d'avoir en tout cas une...
D'imaginer la suite.
Voilà. Donc c'est vrai que quand on a eu des projets qui nous ont amenés à devoir aller chercher de l'argent privé, en fait on n'a jamais vraiment cherché de l'argent privé, on a travaillé avec des... C'était plutôt en termes de logistique ou de matériel ou d'apport en industrie. Donc voilà, quand on a eu besoin de le faire, ben on l'a fait. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses évoluent, c'est-à-dire que l'État se désengage, les collectivités ont aussi du mal à suivre. Et puis, il y a des lois qui font que, tout d'un coup, on facilite les investissements, enfin, la capacité de mettre des financements privés dans l'art.
Par opposition à une économie aujourd'hui globalisée, mondialisée, se développerait une économie alternative. Est-ce que ce terme d'économie alternative vous semble pertinent ou bien est-ce que ça n'est peut-être pas exactement la bonne dénomination? Il renvoie une idée d'une économie autre, d'une économie des autres, d'une économie en marge, alors que il s'agit tout simplement de l'invention de nouveaux modèles, de nouveaux modes opératoires entre les agents économiques. Alors sur cette idée d'économie alternative. Mathéo ?
C'est terrain sensible, l'expression économie alternative. Tout à l'heure, il y avait, enfin, quand on parlait aussi de... juste pour revenir deux secondes sur l'économie, il y a la question aussi service public, utilité publique, enfin tout ça, on y revient aussi. Hein. Je souviens d'une discussion avec... François Cervantes, après il faut peut-être pas la garder s'il est pas, enfin il faut peut-être confirmer avec lui, mais on parlait des systèmes de développement plutôt dans les musiques, les arts numériques, où assez peu de scrupules ou d'état d'âme à dire il faut diversifier, il faut aller chercher des différents types de financement, blablabla. Et puis François qui disait si je suis pas financé par la puissance publique, eh ben je ne continuerai pas à faire du théâtre ou j'en ferai de manière amateur. Donc il y a aussi cette chose-là. Et sur l'économie alternative, j'essaye de regarder, même si je ne suis pas très pointu sur la question, notamment en Amérique latine, là, où il y a des systèmes, là, des communautés, où ils essayent de mettre en place. Il semble qu'il y ait des choses qui soient intéressantes. Il y a probablement des choses...
aussi, avec les selles.
Mais en fait...
Mais en Afrique, je pense que de toute façon, ces économies dites alternatives, je ne sais pas s'il faut les appeler alternatives, mais je pense qu'il y a, de toute façon, ça existe aussi. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas l'économie, la mondialisation, la globalisation. Je crois que le monde est quand même beaucoup plus complexe que ça, si tu veux. Il me semble qu'il y a des tas de gens qui aussi tentent de se débrouiller, tentent de trouver des solutions, tentent de faire des expériences. Alors évidemment, elles sont pas comment te dire, elles n'agissent que sur des réseaux spécifiques, des échelles peut-être plus petites, mais elles sont quand même, je crois, productives. C'est-à-dire qu'elles font quand même partie aussi, je crois, de cette espèce de déséquilibre, hein, parce qu'on va pas dire d'équilibre, ça serait quand même...
Mathéo.
C'est aussi enfin, le rapport qu'on entretient à l'argent. Ouais. Quand je pense à l'économie alternative, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent, comment il est redistribué, est-ce qu'il n'est pas redistribué, pourquoi je ferais des bénéfices, à qui reviennent les bénéfices Donc il y a économie alternative et est-ce que c'est le synonyme de l'économie sociale et solidaire? Je sais pas. Après il y a plein de structures très indépendantes, très petites, qui fonctionnent avec les mêmes logiques que des grands groupes donc et qui considèrent être dans des économies alternatives.
Il y a la question de se situer contre, c'est-à-dire on peut être dans l'économie solidaire contre l'économie de la mondialisation, ou on peut être plus simplement dans l'économie solidaire parce que à certaines échelles, il faut appliquer d'autres modes d'échange, hein, puisque finalement le commerce au niveau mondial, c'est jamais qu'un échange. Il faut appliquer d'autres modes d'échange entre certaines, à l'intérieur de certaines communautés intéressées là-dedans. Moi, je crois que si on se place là-dedans, moi, j'ai pas tellement envie de dire il y a des économies différentes, il y a des échelles différentes d'échange avec des besoins spécifiques à certaines on va dire communautés peut-être, mais à certains réseaux. Voilà. Mais après, c'est autre chose de se situer contre, de faire valoir cette économie sociale et solidaire contre la mondialisation. Je pense que c'est un autre problème.
Participer à cette discussion, vous l'avez constaté, assez informelle autour de la notion de collectif, Madeleine Chiche et Bernard Mesraki du groupe Dune, ainsi que Jérôme Mathéo de Coopérative, et puis Frédéric Kahn, mon complice pour cette thématique autour de la pratique de l'économie solidaire. Vous retrouverez l'essentiel de ces échanges dans le journal de la Friche, à paraître très bientôt.
Coming straight for me.